J'ai un double ou un triple rôle. Donc, en tant que modérateur, je dois essayer de ramener à mon niveau. Hein. Vous savez, elle parle comme une âme, je ne dirais pas désincarnée, mais qui cause avec les anges. Donc, il faut que je ramène son propos pour qu'on essaye de comprendre. Elle avoue modestement que son œuvre est une autobiographie, c'est-à-dire c'est sa propre histoire qu'elle raconte, mais qu'elle a habillée sous le couvert de personnages imaginaires. Elle dit qu'elle a opté de le faire parce qu'elle a, après, à partir de son histoire personnelle, elle a senti un besoin de sensibiliser. Sensibiliser ses semblables sur les dangers de ce qu'elle a qualifié de sororité, qu'on pourrait simplement considérer comme des sortes de conclaves de sorcellerie ou de sociétés secrètes, familiales ou claniques qui s'organisent. Ne voyons pas la sorcellerie toujours celle qui est cannibale, mais nos sociétés, par un certain qu'elle a qualifié, ce qu'elle qualifie dans son ouvrage d'égrégore, c'est-à-dire le fait que les gens se réunissent pour concevoir par la pensée une sorte d'objectif. Je prends un cas, j'ai eu à connaître une famille à la veille de leur mariage, et le monsieur était paniqué parce que on lui aurait raconté, avec preuve à l'appui, que les morts précoces, parce que dans sa famille, il y avait ce système des gens qui mouraient sensiblement autour de 50 ans. Et lui-même se sentant menacé, vient donc demander conseil. Et on lui raconte que son grand-père ou son arrière-grand-père était enfant unique. Ses deux parents avaient été assassinés. Et il était resté seul, comme sans de ses parents. Alors, il a été élevé par des oncles, craignant que la lignée de ses parents ne disparaisse. On a donc le village a organisé un rituel qui devait lui garantir une grande progéniture. On lui raconte la scène, on lui relate la scène qu'on l'aurait amené dans la brousse nuitamment. On a fait un feu, on a organisé une cérémonie où chaque patriarche prenait une herbe qu'il ingurgitait et le but était de le rendre fort et fécond. Et ce grand-père a été effectivement, cet arrière-grand-père avait effectivement été fécond. Il a eu 16 femmes, il a eu beaucoup de moyens. Il est mort à plus de 90 ans. Sauf que aucun, ou alors très rarement, ses enfants ont traversé 60 ans. Il a fallu que ce jeune homme prenne conscience de cela et cherche un moyen pour que cela soit brisé à l'approche de son mariage. C'est ce qu'elle nous raconte un peu dans son ouvrage en disant, voilà, il y a des pactes comme ça qui sont scellés pour peut-être garantir la prospérité d'un individu, mais on ne prend pas en considération les répercussions sur la progéniture parce que parfois, ou généralement, lorsque ces pactes ne sont pas des pactes divins, ce sont des pactes d'autres entités. C'est pour ça que dans mon propos linéaire, je parlais de la force des pensées, de la pensée. La pensée, on y met beaucoup de choses, ça peut avoir des impacts. Et comme la pensée qui pense, la chose ne sont pas toujours habitées par le bon esprit, et d'ailleurs, à l'époque de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, on croyait à beaucoup d'autres choses. Alors, celui qui vous donne donc cette prospérité ou cette protection prend autre chose, et ça peut être dans ses propres forces. Alors, elle dit donc, elle a donc voulu sensibiliser ses congénères que nous sommes, ses familles, ses amis, le public qui va la lire, parce que derrière tout pacte se cachent certainement des sacrifices et des dangers gravissimes pour la famille, pour la progéniture. Elle nous fait savoir que ces pactes généralement doivent être pérennisés par ce qu'on appelle des gardiens, qui sont donc les conservateurs de l'engagement pris par les parents. Sauf que le parent, lui, a pris l'engagement en âme et conscience, mais cet engagement doit être pérennisé et entretenu par l'un de ses enfants qui, malgré lui, vit donc cette élection. Pire, s'il refuse le choix qui a été porté sur lui contre son gré, comme c'était le cas pour elle, parce que on lui fait savoir qu'elle ne doit pas refuser son élection. Elle dit non, moi je la refuse. Et elle dit d'ailleurs à ceux qui sont dans cette situation, vous pouvez refuser. Et a donc commencé pour elle un combat spirituel. Un combat spirituel où, dans ses nuits, où dans son vécu quotidien, sa vie a été une véritable catastrophe. Et elle interpelle donc, elle pose donc cette question au parent. Lorsque nous partisons pour ci ou ça, est-ce que nous sommes d'abord conscients que, au-delà de la lettre du pacte et du bien éphémère que ça peut nous procurer, se cachent généralement des répercussions dangereuses, non seulement pour nos âmes, nous les parents, mais aussi pour l'épanouissement de notre progéniture, de nos enfants, leur avenir. Elle questionne les traditions elles-mêmes. Elle se pose la question de savoir, est-ce que les traditions ne peuvent prospérer que si elles sacrifient l'homme? Pas forcément le sacrifice du sang, mais le sacrifice de la liberté. Parce que, quel que soit ce que nous voulons faire, le Seigneur nous dit par exemple que la vérité nous rendra libres. Il faut que la tradition soit une tradition ouverte dans laquelle, lorsqu'on s'engage, on se sent libre. On n'est pas contraint de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ou alors ne pas vivre avec la peur dans le ventre. Elle questionne aussi les jeunes. Les jeunes, ce n'est pas que la tradition seule. Le monde d'aujourd'hui, pour l'avoir et le pouvoir, nous offre aussi parfois les traditions des autres pour avoir. Et lorsque nous nous engageons pour avoir ces choses matérielles, est-ce que nous sommes conscients que le revers direct, c'est notre âme, et pas seulement notre âme, la possibilité de sacrifier les âmes de nos enfants? Et à la fin, elle se demande donc, et Dieu dans tout ça, est-ce qu'il est là comme un joueur, j'allais dire un concepteur du jeu d'échecs, qui regarde les joueurs s'entretuer ou s'entremêler? Et les hommes de Dieu, comme le Père est là, va certainement nous donner la lecture de l'exorciste, parce que c'est en cette qualité qu'il va prendre la parole, parce qu'il fait face à ces réalités dans la gardienne, sans nous relate les péripéties auprès des hommes de Dieu. L'homme de Dieu est-il l'instrument de la délivrance, ou alors peut-il aussi être l'instrument de l'enfoncement de celui qui est déjà enfoncé? Parce que ça aussi, c'est possible. Parce que nous sommes des êtres habités par l'Esprit de Dieu lorsque nous voulons que l'Esprit de Dieu prenne le dessus. Mais Dieu nous a laissé une telle liberté que parfois, nous voulons supplanter l'Esprit de Dieu et succomber aussi à cette tentation de la voix. Ça ne nous laisse pas, même les hommes de Dieu. Donc, c'est à peu près, je ne dirais pas le résumé, mais l'explication. Parce que nous sommes là pour rendre digeste ce que nous allons découvrir dans la gardienne. Sur ce, sans transition, en tant que modérateur, je me passe la parole. Maintenant, en tant que présentateur ou concepteur de la note de lecture. Avant tout propos au fond, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à Madame Samba Saphir pour l'honneur qui m'est fait en cette circonstance exceptionnelle et solennelle de m'associer au panel d'une double dédicace qui aurait pu, j'en suis sûr, faire la part belle à des érudits dans l'art de la critique littéraire et autres sommités traditionnelles et spirituelles confirmées pour parler de ces deux œuvres qui, à mon sens, sortent de l'ordinaire par leur profondeur mystico-spirituelle et leur qualité rédactionnelle. Le choix porté pour moi, je présume, est sans nul doute une marque de confiance que j'espère pouvoir mériter, madame, au terme de mon propos. S'agissant de ce propos qui a commencé, c'est une note de lecture. Je l'articulerai autour de trois points. Dans une première articulation, nous ferons une analyse de la première de couverture. Vous avez eu sans doute à voir exposer les œuvres à la sortie sur la table à l'entrée, dont nous allons ensemble décortiquer cette première de couverture. Dans un deuxième mouvement, nous étalerons sur l'analyse thématique et stylistique. Et en troisième partie, nous mettrons en lumière la dédicace proprement dite, c'est-à-dire les personnes ou les lecteurs à qui ces œuvres sont dédiées. Première partie donc, la première de couverture. D'entrée de jeu, l'œuvre La Gardienne nous captive par sa première de couverture. Vous pouvez l'admirer avec moi, même de loin. Vous êtes frappé, voire interpellé par l'aspect vif et vivace de cette couverture. La vivacité est d'abord celle des flammes, d'une couleur mêlant le rouge vif et le jaune or. Ces flammes sont ardentes et rappellent le buisson ardent dans lequel Dieu se révèle à Moïse, comme Jésus, j'allais dire, comme c'est Dieu qui le dit, hein, je cite, « Je suis celui qui suis ». Vous l'avez lu dans le livre de la Genèse. Et Dieu le dit dans un buisson ardent. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire celui qui est éternellement présent, celui qui sait tout, celui qui est à la source de toutes choses. Cette omniprésence de Dieu est corroborée ou reconnue par l'auteur, par le témoignage de l'héroïne du roman. Elle vous l'a dit dans son propos, l'héroïne s'appelle Sandre, qui, parvenue au fait de la maturité spirituelle, par l'entremise de moult turpitudes et persécutions, se rend compte que Dieu a toujours été présent dans sa vie. Dieu l'a toujours aimé, même quand elle ne croyait pas en lui et rejetait toute idée de Dieu. Lui, Dieu, il était toujours à ses côtés. Dans ce sillage, cette omniprésence de Dieu symbolisée par le feu nous révèle aussi l'action de l'Esprit Saint qui est représentée à la Pentecôte par les langues de feu. Les flammes, vous voyez, il y a des flammes qui, comme si elles sortaient du ciel, symbolisent donc cette Pentecôte, cette effusion de l'Esprit Saint ensemble. À ce propos, on découvre dans la gardienne tome 2 que l'héroïne Sandre entretient avec le Saint-Esprit une relation quasi fusionnelle. Elle dit d'ailleurs, je ne fais rien sans avoir au préalable consulté le Saint-Esprit. Fin de citation. Le feu peut enfin renvoyer à la fournaise ardente dont nous parle le livre de Daniel. Si l'on considère la grande épreuve mystique dans laquelle l'héroïne est sortie victorieuse. En effet, comme Daniel, le feu ne la consume pas. Vous regardez bien, le feu ne la consume pas. Au contraire, elle semble même contrôler ce feu, de sorte qu'on peut dire avec saint Paul que les épreuves que peut représenter ce feu l'ont purifié comme on purifie l'or par le feu. De même donc, les amis de Dieu sont purifiés par les épreuves de la vie quotidienne. Le feu est donc signe de purification de cendre, la gardienne, afin de faire d'elle une fantassin, une soldate de Dieu. La soldate, cendre la soldate. C'est le deuxième élément marquant de cette première de couverture. On aperçoit une guerrière vigoureuse et intrépide jaillissant de la fournaise. Sa parure et sa posture au masse, ajoutées à son regard vorace, rappellent les Amazones d'Afrique qui étaient des guerrières d'élite de l'ancienne Dahomey. C'est lorsque vous lisez La Gardienne tome 2 à la page 232 que vous prendrez conscience de la profondeur spirituelle de cette soldat en image. Pour faire bref, l'on a là la représentation de l'attitude du chrétien perpétuellement en combat spirituel que Sandre incarne dans la gardienne. Regardez et admirez sa tenue. Elle aborde ce que saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, représente. Le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Chose remarquable tout de même, la soldate a un visage de garçon manqué, trahissant ainsi les élans féministes de l'auteur, qui est une féministe dans l'âme. Grand 2. Analyse thématique et stylistique. Sur le plan thématique, La Gardienne est un roman. C'est-à-dire l'œuvre La Gardienne est un roman. C'est un récit pathétique relatant l'histoire d'une jeune fille, Sandre, mère célibataire, pour reprendre un concept à la mode. Sandre est d'origine africaine, d'un pays imaginaire appelé Katana. Mais elle est née et a grandi en France. Ce déracinement va dès sa prime enfance provoquer chez elle le mal du pays de ses origines, de sorte qu'elle va opérer une sorte de retour aux sources afin de toucher du doigt sa culture d'origine et ses traditions. Elle se fera donc avocate de sa culture d'origine, se réclamant même traditionnaliste. C'est d'autant plus qu'elle y avait été poussée par une intrusion dans sa vie, ce qu'elle a dit tout à l'heure, du jour au lendemain, des phénomènes cauchemardesques mêlée des visions éveillées et oniriques, où elle fait face à des êtres étranges, mi-humains, mi-animaux, mais aussi des personnes décédées qui la visitent et la chargent de missions auprès des vivants. Chemin faisant, face à ses interrogations, sa mère lui révélera qu'elle est une enfant spéciale. Je cite, « Ma fille, ce que tu as vécu est réel. Tu as la faculté de passer d'un monde à un autre. » Fin de citation. Dans ces interactions que semble entretiendra progressivement, tant pour moi, avec le monde invisible, elle découvre peu à peu son identité. Elle apprend qu'elle est le fruit d'un legs héréditaire de gardienne, comme le furent son grand-père et sa mère. En tant que telle, elle ne s'appartient pas. Elle a la charge de la conservation de l'égrégore totémique de sa famille maternelle. Et par conséquent, elle est malgré elle une élue. Son refus catégorique de cette mission ancestrale la met en porte-à-faux avec ses ancêtres et les dix totems qui veulent à tout prix et à tous les prix la soumettre. Cependant, Sandre ne se laisse pas faire. Elle fait feu de tout bois pour chercher la solution. Après des errements dans des spiritualités syncrétiques diverses, elle découvre la puissance de la foi en Dieu de Jésus-Christ. Et par ricochet, elle prend conscience de la grâce qu'elle a reçue de ce Dieu. Celle d'être son élu, elle est l'élu de Dieu finalement pour sauver sa famille. Avec Sang, le titre d'un livre spirituel célèbre prend tout son sens. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Fin de citation. Tout se passe comme si Dieu avait permis l'élection ancestrale de Sang pour en faire un instrument de destruction de ces liens ancestraux et autels maléfiques érigés par les aïeux maléfiques qui impactent l'épanouissement des descendants de sa famille. Ceci se manifeste donc par des maris de nuit, des vies décousues et instables, etc. Au fil des oppressions, ses ancêtres et leur totem, Sandre a connu une croissance spirituelle qui l'a façonné en une guerrière spirituelle qui livrera un combat digne du combat apocalyptique entre Saint-Michel et la bête. Combat qu'elle remporte haut la main avec le soutien de la cour céleste qui lui fait conclure que, je cite, c'est Sandre qui parle avec le recul. J'ai compris qu'il, Dieu, c'est-à-dire Dieu, a laissé faire parce qu'il souhaite se glorifier. Je ne suis au final qu'un instrument de Dieu. Fin de citation. Sur le plan stylistique, l'œuvre de Samba Saphir est un roman dramatique. C'est une œuvre qui baigne dans une atmosphère sinistre et absurde, mélangeant la cohabitation d'une angoisse existentielle et métaphysique. L'auteur plante le décor inique des traditions qui font de l'homme un moyen et non une fin, et met en lumière ainsi l'absurdité de leur mode opératoire qui sacrifie l'homme, fait à l'image de Dieu, à l'autel du pouvoir et de la foi. Pour ce faire, Sand manipule, j'allais dire, Samba Saphir, manipule allègrement les figures de style telles que la métaphore, l'hyperbole, l'allégorie et les proverbes. L'argot camerounais est aussi abondamment utilisé. Elle parle de la tisa. Elle parle de « je suis sur ça », des termes de tous les jours, toutes choses qui trahissent les réelles origines de l'auteur. Parce qu'elle nous a dit que son pays s'appelle Katana, mais avec cet argot, on découvre, on soupçonne donc qu'elle est camerounaise, puisque dans l'ouvrage, on retrouve des lieux connus tels que Zouaïdélé, Oza, Vorbeti, Bagofit, ou encore la référence récurrente aux valeurs de la culture et Kan, qui renvoie au peuple Béti qui peuple le centre sud. Est du Cameroun. Au point de vue formel, l'abondance du ton lyrique et la narration émotive des événements dévoilent les traits d'une autobiographie, comme elle l'a dit, susceptible de plonger le lecteur dans un univers réaliste. À un moment, vous aurez l'impression que vous vivez ces événements. Je le lui ai dit quand je lisais le tome 2. Je me suis retrouvé avec des courbatures comme elle à un moment de la lecture où je lui disais que je le lis à genoux. J'ai dû faire une neuvaine pour terminer la lecture. Le style de l'auteur se déploie par une savoureuse délectation esthétique alliant le style sérieux, soutenu, au langage familier, voire même vulgaire, de la révoltée qu'elle est. Oui, Samba Saphir est une révoltée. Parlant de cet esprit révolté ou de l'engagement littéraire, nous notons qu'au-delà du monde métaphysique dans lequel l'œuvre nous plonge, l'auteur garde un nez lucide et engagé contre les mots qui minent son temps. C'est ainsi qu'autant elle s'insurge contre le néocolonialisme et le racisme qui sont l'apanage de sa terre d'accueil, la France, autant elle fustige également la malgouvernance, la pauvreté ambiante et la corruption qui gangrène Katana, son pays d'origine. De même aussi, elle tire à boulet rouge sur la dépravation des mœurs au sein de l'Église et la polémique déclenchée par le message du pape sur la bénédiction des couples homosexuels. On l'a compris, La Gardienne est une œuvre littéraire au sens propre du terme. En tant que telle, elle est fortement recommandable. Mais alors, à qui peut-on recommander la lecture de La Gardienne? C'est le grand 3, la dédicace. Dédicacer, c'est consacrer ou rendre hommage d'une part. Mais dédicacer provient de dédier. C'est adresser, donner. Mieux, dédicacer renvoie à prédestiner quelque chose à quelqu'un. Au regard de la thématique et de l'analyse stylistique ci-dessus présentée, nous pouvons dire que La Gardienne de Samba Saphir est une œuvre très recommandable à plus d'un titre. D'abord, c'est un hommage rendu à nos traditions. Malgré la supposée trahison de ces traditions, parce qu'en l'écoutant tout à l'heure, c'est comme si elle combat les traditions, mais ce n'est pas ça. Même si elle dévoile la face hideuse de ces traditions, il n'en demeure pas moins vrai que cette œuvre qui est produite à l'ère du slogan « Retour aux sources ». Nous sommes nombreux à soutenir le retour aux sources par notre parure, par notre discours, parfois même par le déni, le reniement de Dieu. La Gardienne est une sonde au milieu de ce méli-mélo de retour aux sources dans ces traditions. C'est une sonde. Samba introduit une sonde. Comme le cacao coûte déjà 5 000. Nous connaissons qu'on sonde le cacao pour savoir, pour détecter s'il est de bonne qualité. La Gardienne est donc une sonde que Samba introduit dans le sac de nos traditions pour permettre aux traditionalistes néophytes de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises traditions. En effet, mesdames, messieurs, toutes les traditions ne sont pas bonnes, tout comme toutes les traditions ne sont pas mauvaises non plus. L'œuvre de Samba Safi semble être une lanterne servant au discernement entre les bonnes et les mauvaises traditions. Et à l'intérieur de ces traditions, la gardienne est un vibrant hommage rendu aux véritables gardiennes et gardiens. Elle l'a dit dans son propos. Parce qu'il y a des gardiens, notre société en a. Peut-être parmi nous, il y en a. Certains sont conscients de leur état de gardien, d'autres ne le sont pas. Comme ça d'ailleurs, au départ, elle ne savait pas qu'elle était gardienne. Car la charge de gardienne est encodée dans l'âme des élus, malgré eux. Et nombreux parmi nous ignorent qu'ils sont dépositaires de cet héritage, et qui, comme ça, découvrent dans les sentiers de la vie des événements qui dépassent leur entendement et dont ils ne peuvent pas en parler par peur d'être incompris et pris pour des fous. Ainsi, les adeptes de ressources très à la mode aujourd'hui pourront, en lisant La Gardienne, éprouver les sources pour savoir si elles sont en phase avec la volonté de Dieu ou pas. Ensuite, ce roman est un véritable guide sur les sentiers de la maturité spirituelle. Le processus de délivrance de cendre des totems fait route avec sa croissance dans la foi. Comme pour dire à tout enfant de Dieu qu'il n'y a point de résurrection sans passion. Toutes choses qui font de cette œuvre une source pour les hommes de Dieu africains qui y trouveront des connaissances élaborées des méandres de nos traditions afin de mieux aider les âmes en peine qui sollicitent leur ministère. Je vous ai raconté l'histoire de ce couple qui m'avait présenté leur angoisse face à l'histoire de leur famille. Cependant, il faudra pour mieux comprendre La Gardienne s'armer de patience pour lire non seulement les deux tomes dans leur entièreté, mais aussi et d'abord lire ce que j'appellerai le tome zéro de cette saga qui parle de l'expérience mystique d'Isis, la mère de sang, qui, en son temps, connut aussi cette découverte catastrophique de son identité. Attention cependant de ne pas succomber à la tentation. La tentation de l'amalgame, car les trois tomes sont un véritable contraste où rime exaltation et déconstruction tant de la foi en Dieu que des traditions ancestrales. Sauf qu'en restant concentré dans la lecture, vous découvrirez que l'auteur purifie la mentalité du lecteur mieux. Elle purifie son cœur afin d'en faire un bienheureux, comme dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Je vous remercie de votre aimable attention. J'ai essayé de faire un propos long, mais un peu détaillé pour que je n'aie pas à faire la synthèse de mon propos.